Radio Campus Orléans.
C'est un appareil de transmission utilisant la lumière pour envoyer des signaux.
Jusqu'à l'aube, la France vivra sur son transistor cette nuit d'émeute.
88.3.
Dauphin Bleu vous appelle. Allô, Dauphin Bleu vous appelle. Et retenez bien.
Il y a un message subliminal dans ce que je dis.
La radio qui émet des ondes.
Mais qu'est-ce que vous êtes venu foutre sur Terre, nom de Dieu? Vous n'avez pas honte d'exister? Hein?
Mais je...
Tais-toi! Tais-toi!
Écoute ta fac. Écoute ta fac. Tous les jours, de midi à 13h sur Radio Campus. Écoute ta fac, c'est des reportages, des chroniques, de la musique, mais surtout de la bonne humeur. On va la refaire, celle-là?
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Campus Orléans. On est le mardi 20 juin et aujourd'hui sur Écoute ta fac, au programme, on va comme chaque jour parler du Flash Actu, un petit tour de la presse internationale, nationale et locale, préparé avec Rodrigue et Faustine. Puis on enchaînera avec l'émission spéciale aujourd'hui sur les troubles du comportement alimentaire, en direct sur notre plateau avec Marie Gricourt, chef cuisinière, et une psychologue du CMP de la Source. Et en deuxième partie, on aura l'instant lecture avec Faustine. Et ensuite, on continuera l'émission avec l'interview de jeunes étudiants à l'ERTS, École Régionale du Travail Social. Et on parlera d'un travail qu'ils ont réalisé pour Radio Campus Orléans sur le coming out des 18-24 ans. Voilà, c'est le programme de Radio Campus. Et on va commencer tout de suite par le Flash Actu. Alors, tout de suite sur le Flash Actu.
Et bonjour à tous, on va commencer par la journée internationale. Aujourd'hui, quelle journée internationale avons-nous ? C'est la journée mondiale du réfugié, qui a été établie par les Nations Unies afin de rendre hommage aux réfugiés à travers le monde entier. Célébrée chaque année le 20 juin, elle met en lumière la persévérance et le courage des personnes qui ont été contraintes de fuir leur pays d'origine pour échapper aux conflits ou à la persécution. La Journée mondiale du réfugié est l'occasion de favoriser une meilleure compréhension et une plus grande empathie sur le sort des réfugiés et de faire connaître leur résilience alors qu'ils démarrent une nouvelle vie. On voit aussi que la Russie bloque l'aide de l'ONU aux sinistrés de la destruction du barrage de Kharkova. La coordinatrice humanitaire des Nations Unies en Ukraine a accusé la Russie dimanche d'entraver l'acheminement d'aide des victimes de la destruction du barrage de Kharkova dans les zones qu'elle contrôle dans le sud de l'Ukraine. Le barrage hydroélectrique de Kharkova, situé dans une zone sous contrôle dans la région de Kherson, a été détruit le 6 juin. Des centaines de kilomètres carrés en aval ont été inondés, forçant à l'évacuation de milliers d'habitants et faisant craindre une catastrophe tant humanitaire qu'environnementale.
Et ensuite, on poursuit Rodrigue avec le naufrage de migrants en Grèce.
Eh oui, Lucas, un naufrage de migrants en Grèce, mais j'ai un petit souci.
Mais car quelques fois après le naufrage du Summer Love au large des côtes italiennes, qui avait fait 94 morts fin février, un nouveau drame a touché malheureusement la Méditerranée mercredi. Un bateau de pêche en effet surchargé de migrants a chaviré au sud-ouest de la Grèce, précipitant la noyade de 78 personnes. Mardi après-midi, un bateau de pêche transportant des centaines de migrants a été opéré par un avion Frontex, l'agence européenne de surveillance des frontières. Mais les migrants à son bord ont refusé toute aide, selon un communiqué des autorités portuaires grecques. Quelques heures plus tard, le navire surchargé a chaviré dans les eaux internationales au large de la péninsule grecque de Péloponnèse. Selon les premières informations des autorités, l'embarcation naufragée avait appareillé de Libye à destination de l'Italie. Les gardes-côtes ont précisé qu'au moment du drame, dans la nuit du mardi à mercredi, à 47 000 marins de Pylos, en mer Ionienne, aucune des personnes à bord du bateau de pêche n'était équipée d'un gilet de sauvetage. Une vaste opération de sauvetage a été déclenchée mercredi matin, permettant de sauver 104 personnes. Outre les patrouilleurs de la police portuaire, une frégate marine de guerre grecque, un avion et un hélicoptère de l'armée, de l'air ainsi que 6 bateaux qui naviguaient dans la zone participaient à cette opération de sauvetage. Dès aujourd'hui, 9 migrants accusés d'être des passeurs pourraient être déférés dans un tribunal de Kalamata, au sud de la Grèce. Ils devraient être mis en examen pour trafic d'êtres humains et homicide involontaire.
Et ensuite, on enchaîne avec la Cisjordanie, de violents affrontements à Jenin, missiles aériens tirés depuis un hélicoptère. La ville de Jenin, dans le nord de la Cisjordanie, à côté de la Palestine, a été le théâtre hier de violents combats entre forces israéliennes et groupes armés palestiniens. D'après le ministère de la Santé palestinien, au moins 5 Palestiniens ont été tués lors d'un raid présenté par l'armée israélienne comme une opération visant à arrêter des suspects recherchés. C'est une bataille particulièrement violente qui s'est déroulée en Cisjordanie hier. 5 Palestiniens dans un combat ont été tués et plus de 90 blessés lors d'un raid militaire. Donc voilà, affaire à suivre pour voir qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue militaire et des conflits armés en Cisjordanie où pour le moment c'est assez tendu. Ensuite, on poursuit avec l'actu nationale au Salon du Bourget. Les commandes commencent à pleuvoir. Le Salon du Bourget, le plus grand salon aéronautique du monde, fait son grand retour cette semaine. Et ce qui est intéressant, c'est de voir notamment qu'il y a de nombreuses commandes organisées tous les deux ans à l'aéroport de Paris-Le Bourget. Il avait été annulé en 2021 en raison du Covid-19. Cet événement prestigieux réunit les principaux acteurs de l'industrie et de l'aviation et offre une vitrine exceptionnelle pour les dernières innovations technologiques, les avions de pointe et les pistes de développement du secteur. Rendez-vous incontournable pour les professionnels mais aussi pour les amateurs et les passionnés d'aéronautique. Il se tient cette année du 19 au 25 juin. 320 000 visiteurs sont attendus pour cette édition où les commandes d'avions pourraient monter jusqu'à 2000 appareils selon les experts d'Alix Partner. Et ensuite, Faustine, c'est à toi.
Exactement, et on passe aujourd'hui à des informations nationales sur le fait que l'État a été condamné pour la première fois à indemniser des victimes de pollution de l'air. Enfin, en effet, l'État a été condamné à verser une somme de 3000 euros et de 2000 euros aux parents de deux enfants parisiens ayant souffert de bronchiolite et d'otite à répétition. Le juge administratif a estimé qu'une partie des symptômes dont ils ont souffert ont été causés par le dépassement des seuils de pollution résultant de la faute de l'État, à savoir son incapacité à faire respecter des normes sanitaires. Et nous avons désormais le changement de constitution, selon Richard Ferrand. Pour Richard Ferrand, en effet, la limite de deux mandats présidentiels successifs affaiblit la vie politique. L'ancien président de l'Assemblée nationale, très proche d'Emmanuel Macron, prend la parole un an après sa défaite aux élections législatives. Il y distille ses conseils pour l'exécutif et estime qu'il serait bon ton de changer la constitution. L'occasion pour lui de faire des propositions, mais aussi d'appeler ses congénères à des concessions réciproques, au risque d'un suicide démocratique. Silencieux depuis sa défaite aux élections législatives, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, prend la parole un an après un entretien au Figaro, ce dimanche 18 juin 2023. L'occasion pour lui de faire des propositions, mais aussi d'appeler ses congénères à faire des concessions réciproques. Interrogé notamment sur le fait que le président ne puisse pas se représenter pour un troisième mandat en 2027, ce très proche d'Emmanuel Macron estime qu'il serait bon ton de revoir certaines règles de la Constitution, regrettant tout ce qui bride la libre expression de la souveraineté populaire. Et nous passons désormais à l'information locale sur Orléans. Nous avons la Orléans qui est la ville intéressée par l'installation de micro-surveillance. Après la vidéosurveillance ou vidéoprotection, préfèrent certains, voici l'apparition des micros de surveillance sur la voie publique. Pas de panique, il ne s'agit pas de capter vos conversations, mais les bruits suspects comme des coups de feu, une explosion, un bris de glace, ces capteurs sonores alerteront la police municipale qui pourra intervenir plus rapidement. Orléans affiche son intérêt pour ces capteurs sonores, l'adjoint à la sécurité Olivier Geoffroy n'exclut pas de tester ce système dans un quartier à déterminer. Il a rencontré Sansivic, situé au labo pour parler de ce genre de sujet. Pour le moment, on trouve une vingtaine de micros, place Châtelet de Loire, Audumar 3 et de la République. Affaire à suivre concernant la RGPD et la protection des données.
Et on termine ce flash info sur le vélo en Centre-Val de Loire. Notamment, par exemple, la région Centre-Val de Loire et le département envisagent et est en train de réaliser des travaux au bord des canaux pour notamment dynamiser le tourisme fluvial et le tourisme cycliste. Donc la Scandibérique, c'est la route qui traverse le Loiret en longeant le canal. Cette véloroute européenne fait 1700 km de long. Elle va de la Norvège à l'Espagne. Et en France, la Scandibérique traverse 4 régions et 20 départements. Dans le Loiret, elle offre un parcours en pleine nature, en bord de canaux. Si vous adorez pédaler, n'hésitez pas à prendre votre monture pour des balades en pleine déconnexion dans notre beau département au bord du canal d'Orléans. C'était le Flash Info et on s'écoute tout de suite un petit peu de musique sur Radio Campus Orléans. On va écouter Everything Collapse de Hélène Alien et Hatch Code. Bonne écoute sur Radio Campus Orléans 88.3 FM. retour sur Radio Campus Orléans 88.3 FM. Vous êtes sur Écoute ta fac, la quotidienne de Radio Campus Orléans. On reçoit aujourd'hui en direct sur notre plateau Marie Gricourt, chef cuisinière originaire d'Étouy au nord du Loiret. Et également, on accueille Éléonore du CMP de La Source. Et on va parler des troubles du comportement alimentaire aujourd'hui sur Radio Campus, avec deux angles différents, l'angle médical et l'angle du goût et la passion pour la cuisine de Marie. Donc on va commencer dans votre parcours personnel à toutes les deux. Avez-vous été confrontée à ce genre de troubles alimentaires ou dans votre alentour ?
Alors, je vais peut-être prendre la parole. Donc, oui, voilà, moi je suis psychologue au CMP La Source. Et donc, effectivement, les troubles du comportement alimentaire, c'est des troubles qu'on peut retrouver, qui apparaissent notamment au niveau de l'adolescence et de l'âge jeune adulte. Effectivement, on retrouve ce type de comportement. Je vais peut-être pas développer beaucoup plus pour le moment. Pour laisser la parole.
Oui, donc Marie Gricourt, chef de cuisine. Alors moi, pour le coup, j'ai été confrontée. Bien sûr, on connaît tous quelqu'un, je pense, durant l'adolescence qui est touché par ces troubles. Après, personnellement, pas du tout. C'est vrai que je suis une bonne vivante et j'aime manger. Donc voilà. Personnellement, je ne suis pas touchée. Je n'ai jamais été touchée. Mais oui, j'ai été confrontée à ça.
Eh bien, merci pour ces réponses. Et est-ce qu'on peut quand même rappeler ce qu'est un trouble du comportement alimentaire ? Je m'adresse surtout à toi, Éléonore.
Oui, alors je vais essayer de vous dire les trois troubles de comportement alimentaire qui existent. Le plus connu, je crois que c'est l'anorexie, où effectivement la personne va entrer dans un comportement de restriction alimentaire, c'est-à-dire que la personne va manger de moins en moins et connaître une perte de poids importante qui va entraîner un certain nombre de troubles médicaux, à savoir au niveau des hormones, etc. L'autre trouble, c'est la boulimie. Où la personne va être dans des conduites alimentaires à manger énormément et pour compenser, parce qu'il y a un sentiment de culpabilité, il peut y avoir des comportements de vomissement ou de prise de laxatifs pour évacuer ce qui a été trop pris. Le troisième trouble, c'est l'hyperphagie boulimique, c'est-à-dire que là, la personne va effectivement avoir des crises dans lesquelles elle a besoin de manger énormément. Sauf que là, pour compenser, elle ne va pas avoir des comportements de vomissement ou de prise de laxatifs. Elle va laisser passer le temps et puis la crise reviendra un peu plus tard. Donc là, c'est trois grands types de troubles alimentaires qu'il faut effectivement être un peu vigilant. Parce que effectivement, il peut y avoir des formes graves qui emmènent jusqu'à des hospitalisations. Donc, être vigilant sur quoi ? Être vigilant sur autour de nous, quand on prend soin de soi, quand on prend soin des autres, de pouvoir parler de l'alimentation avec les autres pour savoir, pour comprendre un peu où on en est. Ne pas juger et rester bienveillant parce que tout le monde a son propre rapport personnel à l'alimentation et qu'effectivement, on doit rester bienveillant vis-à-vis de ça. Mais quand même, avoir une petite alerte pour se dire, ben voilà, telle personne perd énormément de poids d'un coup, telle personne commence à faire beaucoup de sport, peut-être qu'on peut parler à ce moment-là avec cette personne, voir si une consultation serait nécessaire.
Prendre contact, du coup, ne pas fermer les yeux.
Oui, c'est parler voilà, tranquillement avec les gens qui nous entourent de ces choses-là, sans juger.
D'accord, merci.
Et après, justement, avoir parlé avec cette personne, après l'avoir écoutée, et une fois qu'on l'a orientée vers un professionnel de santé, comment ça se passe ? C'est quoi la suite du chemin ?
Eh ben, il y a d'abord, on pourrait dire, une forme d'évaluation pour voir un petit peu où on en est, parce qu'effectivement, une perte de poids importante, faut surveiller, ça peut mettre les fonctions vitales en défaut. Donc là, on entre dans le domaine médical, mais on n'est pas à chaque fois, bien évidemment, dans ces zones-là. Donc les professionnels vont venir travailler autour de ça, autour de la question du comportement, comment est-ce qu'on peut rééduquer un peu le comportement, mais aussi de comprendre qu'est-ce qui se joue pour la personne autour de l'alimentation et notamment au niveau des émotions. Qu'est-ce qui est en jeu dans le repas ? Qu'est-ce que ça veut dire pour la personne ? Et comment est-ce qu'on peut réguler normalement les émotions ?
Ça dépend donc de chaque personne, en fait.
Oui, c'est très subjectif, notre rapport à l'alimentation.
Tout part d'un événement ou de quelque chose, ou ça peut être...
Non, pas nécessairement, parce que culturellement, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, on aime bien manger dans notre société. Donc, culturellement, on est déjà dans un bain qui fait qu'on a un rapport à l'alimentation. Et l'alimentation, c'est le premier lien qu'on a avec les autres, avec la maman, par exemple, quand on est bébé. Donc on est aussi dans quelque chose d'affectif avec la nourriture. On aime bien partager un bon repas. Là aussi, on est dans le lien. Donc il y a tous ces paramètres-là à prendre en compte.
Et ensuite, une autre question qui peut être assez intéressante, notamment Marie, c'est est-ce que tu peux nous expliquer si au restaurant, tu as déjà été confrontée à ce genre de personnes atteintes de TCA et dans ce cas-là, comment on s'adapte pour leur faire aimer la nourriture ?
Alors, je ne pense pas y avoir été confrontée ou je ne l'ai pas vue. Je pense que c'est des gens qui sont très discrets, voilà, qui ne le montrent pas forcément. Alors après, on a toujours des gens qui ne mangent pas beaucoup. Je pense qu'il faut... Même après des opérations de l'estomac, où voilà, y a des gens qui ne mangent pas beaucoup, et il faut s'adapter. Je pense que c'est très important de ne pas leur servir une énorme assiette, parce que souvent les gens nous le disent, il ne faut pas servir une énorme assiette parce qu'ils sont toujours dans la culpabilité de laisser la moitié, de jeter. Je pense qu'il faut vraiment s'adapter à chacun, et puis surtout à leur faire plaisir, parce que c'est ça notre métier, c'est de leur faire ce qui vraiment leur fait plaisir. Et je pense que tous les gens qui ont des troubles comme ça, je leur dirais, faites-vous plaisir, mangez ce que vous avez envie de manger. Et voilà, il ne faut pas oublier que c'est la notion de plaisir.
Très bien, merci.
Faustine, peut-être on peut parler éventuellement de l'accompagnement des personnes proches, de personnes qui sont atteintes de troubles du comportement alimentaire. Comment on fait ?
Tout à fait, on peut parler de l'accompagnement, mais je pense que Léonore nous a déjà donné une bonne partie de la réponse à cette question, qui est pas tout simplement, si j'ai bien compris, d'aller déjà discuter avec la personne, voir comment elle se sent. Et déjà, je pense qu'on ne force pas, parce que je pense que c'est contre-productif et que c'est d'abord son rapport, enfin, respecter le rapport aux gens et ensuite les orienter plus que les forcer, si j'ai bien compris.
Oui, tout à fait. De toute façon, on ne peut pas vraiment forcer quelqu'un à aller à une consultation. Donc, on accueille et on discute des choses. On essaie de voir un peu avec la personne. Effectivement, on peut être alerté et puis conseillé, mais on ne peut pas vraiment aller au-delà de ça. Effectivement, la nourriture, donc je vous disais, a un rapport affectif, mais elle a aussi un rôle à jouer sur notre stress. De manière générale, on voit bien quand on est un peu triste, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller prendre un morceau de chocolat. Mmh. Il y a quelque chose qui est réconfortant dans la nourriture, qui nous réconforte. Et puis, quand on est plus stressé, alors là, j'avais lu une étude, voilà, on va plus vers des alimentations grasses, salées, voilà, pour se caler un peu l'estomac, oui, et dépasser la question du stress.
Et puis même les nutriments, tout ce qui compose cette nourriture-là, c'est des déstressants en fait. Rien que le chocolat, on sait que ça a des vertus antidépressives. Donc forcément aussi, c'est le cerveau va orienter vers ce qui lui fait du bien au niveau du corps.
Tout à fait.
Donc même si le rapport ensuite calorique, etc. n'est pas bon foncièrement, le cerveau s'oriente vers ce qui lui fera du bien émotionnellement.
Tout à fait.
Ouais. Et j'avais moi une petite question qui du coup vous concerne toutes les deux, Marie et Léonore. Comment est-ce qu'on peut éduquer, comment est-ce qu'on peut sensibiliser les jeunes à s'alimenter sainement malgré les petits budgets ou encore le stress des examens ? Est-ce que vous auriez des petites pistes ?
Alors,
vas-y.
Donc effectivement, on a vu l'alimentation, ça a un côté réconfortant. La question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on peut se faire du bien ? Culturellement, effectivement, partager un bon repas, c'est un moment où on se fait du bien. Par exemple, j'ai réussi mes examens, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais fêter ça en famille, je vais manger, etc. C'est une façon de le fêter. Mais il y a d'autres façons, en fait, qui peuvent être aussi réconfortantes dans des activités de balade, de partager un bon moment. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on apprenne à développer des activités qui nous font du bien et qui ne sont pas que en lien avec l'alimentation. On peut se récompenser parce qu'on a une bonne note, mais on peut aussi se récompenser en s'achetant le livre qu'on attendait plutôt que par une glace. Voyez, diversifier les sources de plaisir.
D'accord. Non, moi, je pense vraiment que l'alimentation, c'est avant tout de l'éducation. On a mangé enfant, on n'a pas besoin d'un gros budget pour se faire plaisir. Enfin, je pense pas. Moi, je fais des madeleines qui sortent du four. Bah, ça me rappelle les madeleines de ma maman et c'est pas un budget incroyable. Je pense que c'est des plats comme ça qui nous ramènent un peu à l'enfance. Alors après, tout dépend de l'enfance qu'on a eue et des parents qui cuisinaient ou pas. Hein, mais on peut se faire plaisir avec pas grand-chose.
C'est apprendre les basiques, en fait.
Ouais, mais moi je trouve que c'est ces plats-là qui me font plaisir. Un bon, ma grand-mère était algérienne, elle nous faisait un couscous. Je remange son couscous, voilà, c'est pas grand-chose. Elle mettait pas beaucoup de viande dedans, elle mettait beaucoup de légumes et de la spoule, donc ça coûte pas très cher. Mais c'est des plats qui nous ramènent un peu à l'enfance et qui nous font du bien. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir des gros budgets. Alors après, c'est vrai que de temps en temps, d'aller manger au restaurant, c'est super parce que voilà, on sort, on profite, c'est vraiment un moment à part. Mais on peut manger très bien chez soi avec. Et puis en plus, on est vraiment sur une tendance végétarienne maintenant. Donc c'était vraiment cette protéine-là qui était chère finalement. Maintenant, on peut se faire des bons plats avec des légumes. En plus, on a de la chance d'avoir plein de maraîchers dans le coin, donc pas très cher.
Est-ce que vous auriez des conseils sur où trouver des recettes facilement, que ce soit sur Internet? Enfin, peut-être que les étudiants devraient être un petit peu plus curieux pour trouver des recettes faciles, qu'en tout cas, la cuisine, c'est accessible.
Moi, je suis très livre parce que voilà, dans nos métiers, la cuisine, c'est des livres. Oui. Donc, je vais beaucoup à la FNAC acheter des livres de cuisine. En plus, il y en a vraiment pour tout le monde, des cuisines de grands chefs, comme des cuisines faciles, des recettes qu'on peut faire en 10 minutes. Donc voilà, moi, je conseille les livres. Après, il y a de très bonnes choses sur Internet maintenant.
Voilà. Et de quoi bien dépenser le passe culture ?
Exactement, c'est vraiment le...
Et on le voit bien, les habitudes alimentaires, elles ont beaucoup évolué dans nos sociétés et on a aussi beaucoup de produits transformés qu'on peut retrouver dans nos rayons. Moi, je pense notamment aux photos qu'on peut voir dans les manuels d'histoire-géographie ou avec des familles occidentales, européennes, on a beaucoup de produits transformés. Pour les étudiants aussi qui sont confrontés à la question de s'alimenter rapidement, facilement, qu'est-ce que vous pouvez dire ? C'est parce que ça joue sur la santé, mais vous aussi, en tant que chef cuisinière, comment on peut aider les étudiants à faire des plats faciles, rapidement ?
Je pense qu'on peut cuisiner, et on le fait tous, cuisiner en 10 minutes à la maison, avec vraiment des légumes, on peut le faire, tous. Après, il y a la notion d'envie, la notion de facilité, d'avoir ce plat tout préparé, et de juste le mettre au micro-ondes. Mais moi, la première, je cuisine toute la journée au boulot. Quand je rentre chez moi, je fais quelque chose en 5 minutes chrono, une bonne salade. Vous coupez vos tomates, une petite salade, vous faites une petite vinaigrette et puis vous êtes... Il n'y a pas besoin de faire des choses. Alors forcément, après, il y a des choses qui s'anticipent. Moi, j'adore les plats mijotés. Donc vous pouvez préparer la veille, vous faites votre petit pot-au-feu, bon là c'est pas trop de saison, mais vous faites votre viande braisée, vous en avez pour 3-4 jours derrière parce que vous faites, enfin moi personnellement j'aime bien faire des plats, voilà je cuisine pas pour un repas et du coup ça me fait plusieurs repas et j'ai pas besoin de cuisiner tous les jours. Il y a ça aussi, anticiper un petit peu ces repas, ça se prévoit, voilà.
Oui, prévoir les repas aussi c'est intéressant. Est-ce que prévoir un calendrier de repas, ça peut être une bonne chose ou au contraire contre-productif ?
Alors, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, ce que ça m'a évoqué par rapport au plat tout prêt, c'est qu'en fait, on est dans quelque chose de speed, quoi, rapide, quoi. Et on n'a même plus le plaisir à manger, en fait. On est dans la consommation. Quand tu évoques le fait de pouvoir cuisiner en 5 minutes, là, on n'y est plus et on augmente le plaisir. Et du coup, on va être aussi plus sur une forme d'alimentation un peu intuitive, c'est-à-dire se demander aussi de quoi j'ai besoin là aujourd'hui, qu'est-ce qui peut me faire plaisir, et puis retrouver ce petit plaisir de cuisiner, parce que l'acte même de cuisiner, c'est aussi des choses qu'on fait souvent en famille, donc couper les carottes, etc. Tout ça, c'est des choses qui augmentent le bien-être de la personne, à contrario de mettre dans le micro-ondes.
Ouais, ça suscite vraiment l'envie de manger. Et je pense que ces gens qui ont des troubles, je pense que cuisiner, c'est important. Ça suscite vraiment l'envie. C'est bête, mais un sandwich jambon-beurre, vous achetez une bonne baguette, vous achetez un bon beurre, un jambon, ça vous prend combien de temps à faire un bon sandwich, quoi ?
Et ça revient au même prix.
Et ça revient au même prix, c'est certain. Et vous avez un pain bien croustillant, vous avez des bons produits dedans. Donc voilà. Je pense que c'est vraiment... On peut cuisiner très rapidement et faire des choses très bonnes.
Mais puis faire des choses simples, on peut faire simplement des pâtes et des légumes très rapidement.
Merci beaucoup Marie Gricourt et Éléonore
Lafont,
psychologue au CMP de La Source. Nous avons parlé ensemble des troubles du comportement alimentaire et de ce goût et de cette passion pour l'alimentation en fonction des appétits et surtout des passions pour la cuisine. Merci à Rodrigue, merci également à Faustine pour avoir tenu l'interview. Et puis ça a tenu toutes ses promesses entre santé, éducation et passion pour la cuisine. Merci à vous tous.
Merci.
On s'écoute tout de suite sur Radio Campus Orléans avant de passer à la deuxième partie de l'émission d'Écoute ta fac. On va écouter More Love, feat. Katie Tatam et Brin Story, Wheel Up. Bonne écoute sur Radio Campus.
Looking for a return when the last time you said a kind word. When the last time you told somebody that you really love them just in case you lay the world up and burn. When the last time you showed real affection through a hug and you feel bummed cause you scared of germs. When the last time you reassured a friend that you care so the licking drugs ain't where they turn. When the last time you forget yourself for your mistakes, did you ever give yourself a chance to learn? When you fell out with your friend over a little petty shit, did you ever get it straight like a perm? When the last time you got on your knees said a prayer, you wanna talk to God in the church. When the last time you determined value for yourself, or you looking at the world for your worth? When the last time you really checked on you, my check 1-2. When the last time you said you were gonna do, kept your word, can't do. When the last time you really checked on you, my check 1-2. When the last time, when the last time, when the last time, when the last time, when the last time you really checked on you, my check 1-2, my check 1-2. When the last time you really checked on you, I think we need more time, need more trust, need more patience, need more love. We so anxious, we might bust if shots start ringing when they say war. Need more time, need more trust, need more patience, need more love. We so anxious, we might bust if shots start ringing when they say war. When the last time you really checked on your crew and your mom and them too. When the last time you said you were gonna do, kept your word, came through. Wanna knock your head loose, but you chose to keep cool. When the last time you really played by the rules, or you looked to the news, trying to tell you what's true. When the last time you really checked on your crew and your mom and them too. When the last time you said you were gonna do, kept your word, came through. Wanna knock your head loose, but you chose to keep cool. When the last time you really played by the rules, or you looked to the news, trying to tell you what's new. When the last time. Need more time, need more trust, need more patience, need more love. We so anxious, we might bust if shots start ringing when they say war. Need more time, need more trust, need more patience, need more love. We so anxious, we might bust if shots start ringing when they say war. Need more time, need more trust, need more patience, need more love. We so anxious, we might bust if shots start ringing when they say war. When the last time you really checked on you, my check 1-2. When the last time you really checked on you, my check 1-2. When the last time you really checked on you, my check 1-2. When the last time you really checked on you, my check 1-2. When the last time, when the last time, when the last time, when the last time.
Campus Orléans, nous sommes de retour sur Radio Campus Orléans 88.3 FM. Maintenant, ça va être l'instant lecture avec Faustine qui va nous parler d'un poème de Jacques Prévert. Oui, Faustine, on t'écoute.
Et bonjour à tous, c'est l'instant lecture, instant toujours en lien avec l'actualité. Ces derniers temps, on a pu voir des polémiques importantes à Paris, avec le déplacement de personnes sans abri de la capitale vers des sas d'accueil régionaux, afin de, je cite, désengorger les centres d'hébergement d'Île-de-France. Seulement, quand on gratte un peu, il y a de quoi se poser des questions. Cette mesure intervient étrangement au même moment que les JO, en 2024. Les associations pointent donc du doigt le calendrier, tandis que le gouvernement tente de se trouver tant bien que mal des excuses. Enfin bref, toute cette situation, moi ça m'a fait réfléchir. Et hop, j'ai pensé à un poème qui m'a marqué, « La grasse matinée » de Jacques Prévert. Pour la petite histoire, ce poème est paru dans le livret « Paroles » en 1946, soit un an après la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand les esprits voulaient se libérer de la guerre, mais que les traces y étaient encore présentes et que le rationnement était toujours d'actualité. Il est terrible, le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit, quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Puis elle est terrible aussi la tête de l'homme qui a faim, quand il se regarde à 6h du matin dans la glace du grand magasin. Une tête couleur de poussière. Ce n'est pas sa tête pourtant qu'il regarde dans la vitrine de chez Potin. Il s'en fout de sa tête, l'homme. Il n'y pense pas. Il songe. Il imagine une autre tête. Oh, une tête de veau, par exemple, avec une sauce vinaigre ou une tête de n'importe quoi qui se mange. Et il remue doucement la mâchoire. Doucement. Et il grince des dents. Doucement, car le monde se paye sa tête et il ne peut rien contre ce monde. Et il compte sur ses doigts. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cela fait 3 jours qu'il n'a pas mangé. Et il a beau se répéter depuis 3 jours. Ça ne peut pas durer. Ça dure. 3 jours. 3 nuits sans manger. Et derrière ses vitres, ses pâtés, ses bouteilles, ses conserves, poissons morts protégés par les boîtes, boîtes protégées par les vitres, vitres protégées par les flics et flics protégés par la crainte. Que de barricades pour 6 malheureuses sardines. Oh, mais tiens, un peu plus loin, le bistrot, café crème et croissant chaud. Oh, l'homme titube. Et dans l'intérieur de sa tête, un brouillard de mots. Un brouillard de mots. Sardine à manger, œuf dur, café crème, café arrosé rhum, café crème, café crime arrosé sang. Un homme très estimé dans son quartier a été égorgé en plein jour. L'assassin, le vagabond, lui a volé 2 francs, soit 1 café arrosé, 0,70 francs, 2 tartines beurrées et 25 centimes pour le pourboire du garçon. Ah, il est terrible. Le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. C'était La grasse matinée de Jacques Prévert dans Paroles de 1946. Merci.
Merci beaucoup Faustine pour ton instant lecture, cet instant de poésie avec Jacques Prévert sur Radio Campus Orléans 88.3 FM. Petite pause musicale avant d'accueillir les élèves de l'ERTS pour parler de coming out chez les 18-24 ans. On s'écoute Pangar de Bad Centurion. Bonne écoute sur Radio Campus Orléans. De retour sur Radio Campus Orléans 88.3 FM, c'était Pangar de Bande Centurion sur Radio Campus. Nous sommes avec les élèves de l'ERTS et nous allons parler ensemble de coming out chez les 18-24 ans pour une petite table ronde. Et je suis également avec Rodrigue où on va animer cette table ronde ensemble. Ce qui m'intéresse, première petite question, pourquoi avoir choisi ce sujet ?
On a choisi ce sujet parce que voilà, c'était dans le cadre d'un TD, donc un travail de groupe. Et c'est un sujet qui est prenant, en fait, qui prend une grande. Comment dire, qui est important en fait, dans la société d'aujourd'hui et qui est de plus en plus actuel. Sachant que nous, on est travailleurs sociaux, on est aussi amenés à accompagner ce type de public. Donc on voulait avoir un peu des réponses aussi et des éclairages par rapport à ça.
Et comment, du coup, parce qu'on le rappelle, il y a un reportage que vous avez réalisé, il sera diffusé à 15h sur notre antenne et on peut le retrouver sur le site de la Rédac Pop. Comment vous avez construit ce projet ? Quelles ont été les différentes étapes et comment va s'articuler ce reportage ?
Alors, en fait, on avait le choix du sujet, donc on a choisi ce sujet. On a essayé de réfléchir à être au plus près en fait, des acteurs locaux. Pour traiter aussi de ce sujet, donc on est allé rechercher auprès d'associations. Donc on est tombé sur le GAGL qui nous a permis aussi de pouvoir avoir un super échange avec eux. Ensuite, on a fait beaucoup de recherches aussi au niveau bibliographique. Donc vous pourrez retrouver les livres à l'issue donc, de l'article. Ensuite, on a fait également beaucoup de micro-trottoirs parce qu'on voulait voir un peu aussi les gens dans la rue, ce qu'eux pouvaient en penser et... ce qui a permis en fait à certaines personnes de pouvoir eux aussi en parler librement et de pouvoir parler de leur famille aussi et montrer que c'était plus un sujet qui était tabou, même si beaucoup le pensent encore aujourd'hui. On a eu la chance aussi de pouvoir échanger avec des étudiants aussi qui ont pu nous parler de leur situation, leur vécu qui était très éprouvant aussi pour certains. On a pu aussi avoir l'interview d'une psychologue qui nous a aiguillé aussi sur le sujet. Et également rencontré, à travers un interview, Corentin, qui nous a parlé lui aussi de son expérience.
Super, c'est très intéressant. Et aussi, pourquoi en tant que travailleurs sociaux, c'est important d'accompagner les gens ? Avez-vous une expérience négative qui vous a marqué et poussé à vous intéresser à ce sujet dans votre alentour, est-ce que vous avez une petite anecdote ou quelque chose qui vous a vraiment choqué ?
Alors, on va peut-être plus parler pour un vécu un peu plus personnel aussi, où justement il y avait une époque, le faire, c'était pas évident de pouvoir le faire, et on vivait aussi un peu caché. Et pourquoi vivre caché ? C'était ça aussi. On le vit, du coup, en le cachant, c'est assez compliqué à vivre. Et du coup, le faire le coming out, des fois, ça peut être aussi une libération pour certains et de pouvoir vivre en fait à travers qui on est réellement. Et ce qui est dommage, en effet, c'est de devoir se dire aujourd'hui, moi, je préfère les garçons ou je préfère les filles. Alors qu'on pourrait dire naturellement, je vis avec un garçon ou je vis avec une fille et avoir et vivre ses sentiments librement. Mais c'est vrai que du coup, on vit souvent caché. C'est ça qui est assez compliqué. Du coup, on vit à travers. Un autre personnage, on serait un personnage.
Et par justement les micro-trottoirs que vous avez réalisés, quels ont été les retours que vous avez eus de la part du coup de la société ?
En fait, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de retours positifs, même si on ne va pas exclure les retours négatifs. Il y a quand même une acceptation de la famille, en règle générale, malgré que quand ce ne soit pas accepté, ça soit assez violent en fait. Que ça soit violence verbale, physique, psychologique, en fait, ça, on est amené à rencontrer des gens qui peuvent en parler, même si là, dans le cas des micro-trottoirs, c'était moins le cas. Voilà.
Et ce qui m'intéresse aussi, c'est au niveau de la culture populaire, notamment aujourd'hui avec les réseaux sociaux et les séries Netflix. Ces notions d'inclusivité, d'ouverture d'esprit par rapport au coming out apparaissent de plus en plus. Pensez-vous que ce soit suffisant et de quelle manière pouvez-vous faire le lien entre les jeunes adultes que vous accompagnez en tant que travailleurs sociaux et les parents dans votre travail? Où se cache cette distance et à quel point pouvez-vous intervenir dans votre rôle de travailleur social?
Alors en fait, c'est vrai qu'à travers des films, on pourrait penser que ça pourrait aussi libérer certaines paroles de parents. Pas du tout. Aujourd'hui, notre mission à nous, c'est aussi de pouvoir créer des espaces pour que les parents puissent échanger sur la situation et de pouvoir se dire, bah voilà, j'ai un enfant qui est comme ça, mais comment je peux faire? Parce que c'est vrai qu'il y a souvent cette peur de se dire, voilà, mon fils est homosexuel, quel regard je vais avoir de la part de la société? Parce que c'est vrai qu'on entend encore, hein, quand on voit des séries de films où il y a des homosexuels, des fois, il peut y avoir des propos qui sont durs à entendre de la part de certaines personnes. Et du coup, c'est vrai qu'il y a quand même un frein encore par rapport à ça. Et du coup, pour moi, ce n'est pas à travers les films, mais à travers les réseaux sociaux qu'on va pouvoir faire changer les mentalités au niveau de certaines personnes. C'est à travers des échanges, à travers des lieux d'écoute qui vont nous permettre de pouvoir avancer.
Parce que pourquoi, chez certaines personnes, justement, y a cette incompréhension?
Alors, cette incompréhension se fait naturellement, en fait. Il y a la peur du regard de l'autre. Il y a aussi tout ce qui est côté religieux. Et puis, il y a aussi, pour des parents, c'est pas évident de se dire, voilà, comme tout parent, on imagine son enfant. Mon enfant va devenir comme ça, mon enfant va se marier, mon enfant va avoir des enfants. Et le jour où l'enfant annonce, voilà, papa, maman, je vis avec un garçon, les rêves de ces parents-là s'effondrent. De voir leur enfant construire sa propre famille. Pour eux, ils ne s'imaginent pas que oui, aujourd'hui, on peut construire sa propre famille, qu'on soit deux hommes ensemble, deux femmes ensemble. Et donc, du coup, il y a cette, on peut appeler aussi la question du deuil, le deuil de l'enfant qu'on s'était imaginé.
Une question de projection.
Est-ce qu'il existe aussi des formations aujourd'hui pour sensibiliser au coming out et vous aider, vous, en tant que travailleurs sociaux, d'avoir les clés pour agir sur ces questions-là? On vous écoute.
Il n'existe pas réellement de formation maintenant. Nous aussi, ce qu'on a découvert et ce qu'on a pu voir en fait à travers ce travail-là, c'est-à-dire que on s'est rapproché de certaines associations qui existent effectivement et qui peuvent nous épauler et nous aiguiller par rapport à la conduite qu'on doit tenir en tant que professionnel ou en tant que citoyen. Maintenant, effectivement, il n'y a pas de formation. En fait, on peut pas se former. Je pense pas que ça soit réaliste en fait de se former. À accueillir ce genre de situation. Je pense que c'est aussi, faut suivre une évolution culturelle, c'est-à-dire que, comme disait Sam tout à l'heure, il y a une question de religion, il y a une question de mœurs sociétaux qui sont imposées depuis certaines années et qui évoluent, en fait. Et je pense que ça va avec. Maintenant, ouais, parler de formation, ça serait peut-être un petit peu ambitieux, je pense. Mais, ouais.
Et qu'est-ce que les pouvoirs publics peuvent faire pour agir sur ces questions? Est-ce que vous trouvez qu'on est en retard en France ou qu'au contraire, le gouvernement actuel prend à bras le corps, est-ce que c'est suffisant?
En comparaison à d'autres pays, je dirais peut-être qu'on est en avance, mais aussi on peut être très en retard. Donc maintenant, en termes de voilà, tu parlais de fonds publics, etc. Ouais, peut-être qu'on a encore un train de retard. Maintenant, je pense que les choses évoluent de plus en plus rapidement. Et je pense que d'ici quelques années, ça ira de mieux en mieux.
Et est-ce que, selon vous, les jeunes seraient plus discriminés que leurs aînés? La crise sanitaire aurait-elle accéléré ce genre de phénomène? Comment on analyse cela, comme vous êtes au proche des gens au quotidien dans votre travail?
C'est une très bonne question et je pense qu'en fin de compte, je ne sais pas si on peut parler de favoritisme, etc. Par contre, une chose est sûre, c'est que les jeunes ont plus accès aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, en fait, font passer l'information de plus en plus rapidement. Et donc, voilà, en quelque sorte, on est... Enfin, elles sont touchées différemment, en fait. C'est pour ça qu'on a choisi aussi cette tranche d'âge-là, parce que forcément, je ne vais pas dire, pour ne pas stigmatiser, mais je veux dire, les plus âgés, les plus anciens ont moins accès à ce genre de réseau et prêtent moins attention. Et donc, du coup, les informations, elles n'ont pas forcément. Donc, du coup, peut-être moins impactées. Hein.
Bon, et du coup, par rapport aux générations précédentes, est-ce que vous avez pu quand même avoir des retours et voir comment aussi les choses ont évolué ou pas?
On a, à travers nos micro-trottoirs, c'est qu'on a rencontré des gens de tout âge. On avait même une dame de, on va dire, presque 80 ans qui ne comprenait pas le terme de coming out, qui disait « mais vous me parlez de quoi ?» Et en fait, pour elle, elle disait « mais oui, je vois pas de quoi vous parlez. » Et elle est venue parler d'une révélation. Elle a fait « vous me parlez de révélation, je pourrais le comprendre. » Mais pas du coming out, voilà. C'est vraiment une question de mots, en fait, qui vient jouer. Alors c'est vrai que sur les micro-trottoirs, toutes les personnes qu'on a pu rencontrer...
Mais cette question de mots qui a aussi une importance, parce que le coming out, le formuler de cette façon-là, c'est, et l'angliciser, c'est aussi dire que ça vient dans une période quand même plus tardive, plus moderne.
Plus moderne. C'est vrai que à l'époque de cette dame, ou à l'époque il y a encore, on va dire, 20 ans, 30 ans en arrière, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas automatiquement, c'était quelque chose qui était caché. Il faut rappeler quand même que la dépénalisation de l'homosexualité ne date que de 1982. Donc du coup, c'est pas si vieux que ça. Donc il y avait encore, avant les années 80, c'était, on pouvait faire de la prison par rapport à ça. Donc c'est vrai que c'était encore caché.
Merci beaucoup aux élèves de l'ERTS. Est-ce que vous pouvez redonner vos noms à l'antenne?
Alors, il y avait Ulysse.
Jonathan.
Samuel.
Léo.
Alexandre.
Merci d'être venu à nos côtés pour parler de coming out chez les 18-24 ans. C'était très intéressant. Maintenant, petite pause musicale avant de se quitter dans quelques instants sur Radio Campus Orléans. On écoute The Wreck of My Soul du groupe La Battue. Bonne écoute sur Radio Campus Orléans 88.3 FM. I can hardly breathe. De retour sur Radio Campus Orléans, on va annoncer le programme de la journée tout de suite. pour savoir qu'est-ce que vous allez avoir au menu aujourd'hui sur la radio. À 13h, on retrouve Novorama. Ensuite, à 14h, les cahiers de l'emploi. On va continuer à 15h avec le Moulin à Parole, avec l'émission des étudiants de l'ERTS sur le coming out des 18-24 ans. Ensuite, de 19h à 20h, l'émission politique hebdomadaire de Hassan Kerim à Bâton Rompu. De 20h à 22h, l'émission Reggae Ride On. Et enfin, aujourd'hui, de 22h à minuit, le catalogue électro sur Radio Campus Orléans. Merci de nous avoir écoutés sur Écoute ta fac et on se retrouve demain. On s'écoute pendant quelques secondes avant de passer à une nouvelle émission, la musique. Toujours les mêmes faces de Les Lunatiques. Bonne écoute!